Alex Langto et Oli Guy avec vous jusqu'à 14h dans cette émission de La Game. Et on garde le sujet dans le monde du hockey parce que ce matin, un tweet de Marco D'Amico du Montreal Hockey Now nous a fait réagir, Oli et moi, par rapport au contrat de Carey Price que le Canadien tenterait de transiger en ce moment. Je vais commencer par le saluer. Marco D'Amico, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ben oui, ça va bien. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Très, très contente de te jaser.
Ouais, pas de problème. Juste précision, maintenant rendu à RG Media depuis un an.
Pour vrai?
Montreal Hockey Now, c'est Marc Dumont. Haute marque.
Mon Dieu, je suis tellement désolé. J'étais certain. Mais tu as été là avant, non?
Ouais, absolument.
OK, c'est ça.
Pendant deux ans, mais okay. Ça fait un an que je suis plus là, donc...
Vraiment, on a un Marco.
Oh,
quel problème. Donc Marco D'Amico de RG Media, merci Marco de me ramener à l'ordre. Ouais, ben écoute, ce matin ton tweet m'a attiré mon attention parce que t'as dit que t'as fait quelques appels puis t'entendrais que le Canadien est en train de bouger le contrat de Carey Price d'ici le mois de septembre.
Ouais, mais effectivement à partir du mois de septembre. Donc la situation pour le monde qu'ils comprennent, c'est que le contrat de Carey Price, c'est pas juste dans le néant. Ça existe contre le cap salarial. Et en ce moment, le Canadien sont au-dessus du plafond du cap salarial.
Ouais.
Et doivent utiliser le fameux 10% de plus durant l'été pour rester en dessous de la masse et tout ça. Donc, en ce moment, le Canadien ne peuvent pas vraiment faire un ajout à ajouter un salaire de 3 ou 4 millions, exemple, parce qu'ils sont déjà 6 millions au-dessus de la masse salariale en ce qui a trait à la situation, et d'utiliser le fameux LTIR que le Canadien utilise depuis des années durant la saison morte n'apporte absolument aucun avantage aux Canadiens durant la saison régulière. Donc, le Canadien attend jusqu'au 1er septembre jusqu'à le dernier boni de signature de Carey Price, qui est de 5,5 millions, sera versé. Et à ce moment-là, il va juste avoir 2 millions de dollars en salaire, dont 60% serait couvert par les assurances afin de payer le restant de son contrat.
Donc, ça devient une situation un peu compliquée. Là, tu as entendu qu'on essaierait de bouger ça. Est-ce que tu as entendu des cibles potentielles? Il va certainement avoir des discussions quelque part parce que le CH n'aura pas le choix de trouver une solution au final pour ne pas dépasser le cap.
Exactement. Et il y a certaines équipes, si tu regardes, exemple, on a vu les Sharks de San Jose dépenser de l'argent de façon quasiment aléatoire durant le début du mois de juillet, juste pour essayer d'arriver au plancher du cap salarial. Puis c'est ce genre d'équipe-là qu'il faut cibler. C'est que si tu regardes les Sharks de San Jose, c'est pas mal assuré. Puis je dis pas que ça va être seulement les Sharks, mais j'utilise un exemple pour passer aux Blackhawks de Chicago aussi. Il y en a plusieurs qui vont rentrer dans ce décor-là, même peut-être les Flames de Calgary. Mais avec les Sharks, de façon spécifique, ils ont un nombre assez important d'agents libres qui seront disponibles pour l'été prochain. Ce qui fait en sorte que si cette équipe-là ne fait pas les séries, ça va être un des plus gros vendeurs de l'encan 2026 pour la date limite des transactions. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que si tu es proche du plancher et tu commences à transiger tous ces joueurs-là, juste échanger 3 ou 4 joueurs et de faire filer 12 millions sur ta masse, tu te trouves en dessous du plancher. Et donc, tu as besoin d'une police d'assurance pour ça. Les Blackhawks de Chicago ont fait un move similaire l'année passée à la date limite des transactions en faisant l'acquisition de Shea Weber, de la part de Utah, qui eux l'ont acquis des Golden Knights, qui eux l'ont acquis du Canadien de Montréal. Et la raison pour laquelle, c'est parce que Chicago a vendu, a transigé certains vétérans et voulait rester au-delà du plancher du cap salarial. Donc, c'était leur stratégie en ce moment, puis ça va être une stratégie qui risque d'être utilisé encore par 2 ou 3 équipes cette année.
C'est un peu ce qu'on avait avec les Coyotes de l'Arizona dans le passé, où on ramassait plusieurs gros contrats pour, entre guillemets, aider des équipes en échange de compensation. Ça serait intelligent dans le cas des Sharks, par exemple, de faire ça pour aider le CH. Autre info, Marco, que t'as partagé, ou du moins qu'on a entendu au cours des derniers jours, c'est que le Canadien est prêt à faire des transactions, mais David Raymacher et Michael Hayes ne sont aucunement disponibles dans ces discussions.
Ouais, puis c'est tout le monde, quand je dis aucunement disponible, c'est dans des transactions qui ont de l'allure. C'est certain que c'est quelqu'un offre McDavid contre linebacker, le monde ne se posera pas de questions. Mais dans un monde réaliste, ce n'est pas des joueurs que le Canadien serait prêt à transiger. Ils l'ont dit lors des discussions pour Noah Dobson, lors des discussions pour un joueur top 6 en début juillet. Donc, c'est un peu le même cas en ce moment. Et que dire, Michael Hage a eu un très bon camp junior pour l'équipe Canada récemment. David Reinbacher a très bien impressionné durant les séries pour le Rocket de Laval. Donc, c'est deux espoirs qui, s'ils arrivent à leur plein potentiel, le Canadien va avoir deux très bons jeunes qui vont gagner très peu alors que le club va être en position pour commencer à non seulement rentrer en série, mais faire du dommage sur une base annuelle. Donc, c'est ça la vision. Tu as toujours besoin d'avoir ces jeunes qui rentrent dans l'alignement, même s'il y a présentement un trou dans le top 6 pour le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien aimerait plutôt faire un échange de futur, que ce soit des choix, que ce soit d'autres espoirs, mais les espoirs, leurs espoirs de premier plan, leur premier, deuxième, troisième, pas nécessairement sur la table en ce moment.
Donc, Jacob Fowler rentre là-dedans dans les joueurs qui sont indisponibles dans une transaction qui ferait du bon sens. Là, c'est Christian sur la messagerie texte qui pose cette
Ouais.
question-là.
Ouais, avec un gardien, c'est un peu difficile. Un espoir de gardien de but n'a pas nécessairement toujours la meilleure valeur parce que il y a tellement d'impondérables dans le développement d'un gardien que c'est un peu difficile de voir la valeur. Ce que je peux dire, c'est que le Canadien de Montréal l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, c'est un joueur que Kent Hughes connaît très bien, un client de Quartex, lui aussi.
Absolument.
Qui était l'ancienne agence de Kent Hughes. Donc, pour moi, il y a toujours un moyen d'échanger ces joueurs-là, mais c'est des joueurs que le Canadien cherche absolument à ne pas bouger. Et donc, il y a d'autres espoirs, comme on a vu. Le Canadien ne voulait pas bouger David Reinbacher, mais Logan Mailloux, lui, était disponible en conséquence en vue de l'échange de Noah Dobson. C'est qu'est-ce qui a fait en sorte que Zachary Bolduc est maintenant un Canadien. Donc, c'est ce genre de contexte-là que le Canadien aimerait utiliser pour aller chercher de l'aide si possible sur le marché des échanges. Et il y a plusieurs quoi que d'ici la fin d'août, début septembre, il y a de quoi qui va commencer à se débloquer parce que ça commence maintenant à rediscuter à travers les DG.
Oups, on t'a perdu un peu, Marco. Est-ce que t'es toujours là?
Je suis toujours là.
Oh, OK. Excuse-moi, j'ai perdu la fin de ta phrase là, quand tu t'es rendu à DG. Là,
Ah,
tu m'as
y a
dit.
les DG recommencent peu à peu les conversations en ce moment, que
OK.
ce soit avec leurs agents libres avec restrictions ou les transactions en tant que telles. Il n'y a pas beaucoup de mouvement parce que vraiment, il y a trop de parité en ce moment dans la Ligue nationale. Je
Absolument.
pense que la façon que l'année a fini l'année passée a fait en sorte qu'il y a beaucoup de parité. Les équipes veulent pas transiger leurs joueurs pour des futurs. Ils veulent des joueurs en retour de leurs joueurs. Donc, c'est ça qui limite la situation en ce moment.
La hausse du plafond va certainement contribuer aussi à amener du mouvement. Puis tu m'as envoyé comme note que tu entendais que les équipes vont pas nécessairement attendre avant de faire de la vente cette saison en vue du repêchage de 2026.
Ouais, je pense que on l'a un peu vu l'année passée, le moment que Nashville a lancé la serviette de fin novembre, on a vu la transaction Carrier. Ça va être un peu la même situation cette année, mais avec plusieurs autres équipes. Il y a un tas, je dirais, un 7-8 clubs qui sont pas nécessairement des vendeurs absolus, mais qui sont dans le mix pour être éventuellement un vendeur, disons, préventif. Parce que c'est un club, ce sont des clubs. Je regarde les Islanders, je regarde Seattle, je regarde Boston, je regarde. Il y a plusieurs clubs dans ce contexte-là qui sont entre deux chemins, qui doivent choisir un chemin. Et avec la puissance de la QV de 2026, il y a plusieurs clubs qui, rendus début, fin, no di di disons milieu novembre, vont commencer à avoir des discussions sérieuses sur le concept de on devrait vendre un peu maintenant. Commencer la dégringolade, puis se bien positionner pour repêcher dans un top 5 qui risque d'être très élite cette année.
C'est intéressant, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Marco, je t'en pose une dernière, puis je veux rapidement te ramener vers le contrat de Carey Price qui pourrait possiblement être transigé, comme on en a parlé au début de notre discussion. Mettons que le Canadien réussit à bouger ce contrat-là, à quel point il serait lousse sous le plafond salarial, le CH, pour les prochaines années?
Ah, ben c'est juste pour l'année prochaine. Le contrat à Carey Price arrive à terme le 1er juillet 2026. Donc, c'est juste pour l'année prochaine. Après ça, les deux gros contrats à regarder seront celui de Brendan Gallagher et de Josh Anderson. Combinés ensemble, font 12 millions de dollars. Ça prend fin, si je me trompe, en 2 ans. Mais dès l'année prochaine, le Canadien, c'est 10,5 millions de dollars que ça soit échangé maintenant ou que ça prend terme l'année prochaine. C'est 10,5 millions. On parle de, en ce moment, là, on parle de quoi? 11,6 millions, 11,6% du cap salarial du Canadien de Montréal qui l'occupe. C'est beaucoup d'argent. Puis même pour un club qui est en reconstruction, ça les a, je dirais pas fait mal, mais ça les a peut-être gossé un peu dans la planification de leurs effectifs. Et donc, d'avoir cette flexibilité-là, spécialement que pendant que le club devient plus compétitif, mais ça te permet d'avoir beaucoup plus de cap salarial que tu es capable d'ajouter, rendu à la date limite des transactions. Puis c'est là où, maintenant que le Canadien devient compétitif, c'est là qu'ils vont être capables d'ajouter des éléments qu'ils n'ont peut-être pas pu faire durant l'été. Puis c'est là que ça devient intéressant.
Marco D'Amico de RG Media, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. C'était très le fun de jaser. Puis on se reparle bientôt, mon ami.
Un gros plaisir et bonne journée tout le monde.
Ça marche. Salut Marco, bye bye.